Vous écoutez
RMC.
RMC Jeux Olympiques Paris 2024.
J-100.
Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La remontada, mais dans le bon sens cette fois, pour Paris qui s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions hier soir en renversant le Barça 4-1. Encore des affaires de refus d'obtempérer. Un policier blessé dans le Bas-Rhin. Pronostic vital engagé pour un jeune conducteur de scooter dans le Cher. Et J-100, vous l'entendez, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et en plus des places à gagner sur RMC, il y en a 250 000. Qui sont mises en vente ce matin.
Et puis des bagarres à répétition tous les week-ends à la Foire du Trône à Paris. Des violences filmées, diffusées sur les réseaux sociaux. Un climat que dénoncent les forains. L'un d'eux sera le témoin du jour juste après ce journal. Et cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour le PSG.
Oui, Paris qui a gagné 4-1 à Barcelone hier soir.
Koundé, ça revient les pieds de Mbappé.
Oui,
allez, cette fois-ci,
oui, oui,
c'est la bonne, oui, c'est la bonne. 4-1,
yes.
Doublé de Mbappé. C'est pas la remontada, c'est la démontada du Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est une démontada, disait Jean Rességuier hier soir sur RMC. Jean, oui, vous êtes en direct de Barcelone avec nous ce matin.
Oui, oui, oui. Désolé pour la voix grave. Hein.
Bah non, mais on comprend. Bon, les Parisiens étaient condamnés à l'exploit après leur défaite du match aller. Ils étaient condamnés à l'exploit hier soir et ça s'est bien passé.
Oui, une nouvelle fois, nous sommes passés par toutes les émotions avec le PSG qui donne le sentiment d'être bien dans son match, mais qui encaisse ce but de Rafinha dès la 12e minute sur la première action dangereuse de Barcelone. Paris réagit grâce à Mbappé et Barcola. Ce dernier provoque Araujo dans la course, faute de l'Uruguayen qui sera expulsé. Et juste avant la pause, Dembélé réussit à égaliser. Retour à la case départ avec ce but de retard sur les deux matchs. Le PSG entame la deuxième période avec ambition et supériorité numérique. Ascenseur émotionnel prend la bonne hauteur. Vitinha, comme la semaine dernière, déclenche une frappe terrible. Paris mène 2-1 à la 54e minute. 4 partout au total. Jusqu'à ce doublé de Kylian Mbappé. Un pénalty à l'heure de jeu provoqué par Dembélé. Et ce ballon mal négocié par la défense barcelonaise qui finit par être transformé en but. 4-1. L'écart est creusé. Paris a fait sa remontada dans ce quart de finale. Mbappé part communier avec les supporters. Tout le monde est aux anges. Histoire se poursuit encore quelques semaines.
Oui, bah tiens, écoutez cette communion avec les 3000 supporters parisiens qui avaient fait le déplacement au stade Montjuïc de Barcelone.
Je suis heureux, c'est le premier déplacement que je fais où on gagne au match retour. Et là, les mecs, je suis heureux comme tout. Kylian, il en met deux, on t'aime mon kiki. Maintenant, tu l'emmènes au bout, hein, celle-là. Faut l'emmener au bout. Et tu partiras sur un piédestal, mon kiki. Allez, mon béco.
Plein d'émotions. Au début, on perdait 1-0, on n'y croyait pas. Au final, ça a passé avec un carton rouge. Beau match. Dans une ambiance, ils étaient calmes comme pas permis. Et Paris, ils étaient en feu, on s'en réclamait au parc.
Alors, demi-finale pour le PSG, ce sera le 30 avril ou le 1er mai. On n'a pas encore le calendrier, mais c'est dans deux semaines, donc contre Dortmund qui s'est qualifié en battant l'Atlético au terme d'un match fou. Là encore, 4-2 pour les Allemands. Et ce soir, on connaîtra le tableau final avec les derniers quarts de finale retour. Le Bayern contre Arsenal et Manchester City face au Real. Il y avait eu des matchs nuls dans les deux cas lors de ces matchs allés. À 7h03 sur RMC, encore une fusillade hier soir à Nîmes. 5 blessés dans le quartier du chemin bas d'Avignon, qui est régulièrement le théâtre de coups de feu sur fond de trafic de drogue. Deux nouvelles affaires de refus d'obtempérer, je vous le disais, dont le nombre est pourtant en baisse d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Garde à vue prolongée pour un jeune de 17 ans qui a renversé un policier devant un collège de Schiltigheim dans le Bas-Rhin, c'était avant-hier. Et pronostic vital engagé pour un jeune conducteur de scooter à Bourges, dans le Cher, après un refus d'obtempérer. C'était lundi soir, Cassandre Bon.
Lundi, un peu avant minuit, des policiers municipaux décident de contrôler un scooter. Son conducteur de 22 ans et son passager de 20 ans roulent sans casque et sans immatriculation. Comme le conducteur ne s'arrête pas et refuse d'obtempérer, les policiers le dépassent et utilisent du gaz lacrymogène en direction des deux jeunes hommes. D'après le passager du scooter, ils sont déstabilisés et heurtent alors un lampadaire. Lui est légèrement blessé, mais le pronostic vital du conducteur est engagé. Une version qui diffère de celle de la mairie de Bourges. Contacté par BFM TV, elle explique que les policiers n'étaient plus en train de poursuivre le scooter au moment de l'accident. D'après la procureure de Bourges, il est encore trop tôt pour savoir si le tir de gaz lacrymogène est à l'origine de l'accident. Une enquête de flagrance est ouverte pour blessure involontaire et plusieurs policiers municipaux ont déjà été auditionnés.
Apolline le disait, la violence qui s'invite dans les fêtes foraines, sans doute attisée par les réseaux sociaux. Des bagarres parfois violentes sont rapportées entre groupes de jeunes. Il y en a eu 5 le week-end dernier à la Foire du Trône de Paris. Et alors ça exaspère tout le monde, Lucas Lobert.
Oui, à commencer par les visiteurs. Christine est maman d'une adolescente.
Les enfants viennent pour s'amuser. Avec la bagarre, ça ne rassure pas les mamans, quoi. Donc on est obligé de les accompagner.
À côté d'elle, sa fille, Ludivina, elle a vu sur les réseaux sociaux des scènes de bagarre à la Foire du Trône.
Les images, c'est violent quand on voit, ça fait très peur.
Des vidéos qui inquiètent aussi les forains.
Et attention au départ.
Louis Joubert est président de l'association de la Foire du Trône.
Tout ça, c'est monté en épingle et puis voilà, ça nous fait du tort et ça a un impact économique. C'est pas bon pour nous, ça nous fait une mauvaise presse.
Et puis ces vidéos virales de bagarres peuvent même faire des émules chez ceux qui les visionnent. C'est ce que pense Karl Van Krijenest, forain également.
Cette course à la sensation donne d'autres idées à des jeunes qui se donnent tous encore rendez-vous. La Foire du Trône, c'est pas un ring. Qu'ils aillent se battre ailleurs.
Mais derrière ces vidéos, il y a de réels débordements, un phénomène qui existe depuis plusieurs années pour Julien Chénardy, secrétaire régional Île-de-France du syndicat de police Alliance.
C'est des jeunes de cité et qui, pour s'amuser, viennent pour détrousser les clients, qui viennent s'en prendre également aux forains. C'est pas juste un sentiment d'insécurité, elle peut être réelle à certains moments de la journée.
Samedi dernier, 4 personnes ont été arrêtées à la foire pour vol avec violence, menace avec arme et outrage.
Un fait marquant dans la campagne des européennes du mois de juin, une conférence nationale a été interdite et même interrompue par la police hier à Bruxelles. Vous n'êtes pas les bienvenus, voilà ce qu'a dit le maire de la capitale belge aux représentants qui devaient y participer, à savoir le Hongrois Viktor Orban, le Britannique Nigel Farage et l'ancien candidat à la présidentielle en France Éric Zemmour, qui dénonce une dictature.
On m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature et je vois que je ne me suis pas trompé. Ça symbolise ce que devient tout le continent européen, c'est-à-dire un continent où on ne peut plus s'exprimer librement, où le continent qui a inventé la liberté d'expression devient son fossoyeur. C'est triste, détestable et déplorable.
Bientôt 24 heures que la grande usine Ascométal de Fos-sur-Mer est bloquée dans les Bouches-du-Rhône par des fournisseurs du groupe sidérurgique qui ne sont plus payés depuis le placement en redressement judiciaire de l'entreprise le mois dernier.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Alors la flamme olympique sillonne la Grèce depuis qu'elle est allumée hier matin. Elle est en Péloponnèse précisément, toujours aujourd'hui jusqu'au Pirée à côté d'Athènes. On est à 100 jours donc ce matin de la cérémonie d'ouverture et de nouvelles places sont mises en vente aujourd'hui Arnaud Valadon.
250 000 billets en vente et le premier arrivé sera le premier servi. L'organisation précise que cela concerne tous les sports. 50% des tickets sont annoncés à moins de 100 euros. 12 000 billets seront remis pour le tennis de table dont une partie permettra de voir les frères Lebrun. En judo, les finales possibles de Teddy Riner et Clarissa Agbeninou ou encore en natation, les séries et la finale du 400 mètres 4 nages avec le grand favori et star française annoncé Léon Marchand. Pour la cérémonie d'ouverture sur la scène, des nouveaux billets seront en vente pour une place sur les kebabs à partir de 90 euros. Il faudra ensuite attendre le 15 mai et l'ouverture de la plateforme de revente officielle pour tenter d'acquérir un des précieux sésames pour les Jeux.
Et alors RMC se met à l'heure olympique à J-100, journée spéciale sur RMC. Il y aura David Douillet dans les GG tout à l'heure, Marion Bartoli chez Estelle Midi, le Super Moscato Show. En direct du Grand Palais que vous connaissez bien, Apolline, avec de nombreux invités.
Maintenant, je le connais bien, ouais, le Grand Palais. Ouais. C'est magnifique. Cela dit, franchement, c'est extraordinaire comme lieu. Et je me dis que quand il y aura les épreuves d'escrime et de taekwondo au Grand Palais, quel rayonnement, ça va être absolument, absolument magnifique. Et puis, toute la journée, on fait gagner des places. Hein, vous le savez, toutes les heures, il y a 2 places à gagner pour les meilleures épreuves, pour la cérémonie d'ouverture. Vous n'hésitez pas, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Il y aura un gagnant, tiens, dans 20 minutes, avec nous, en direct, sur RMC, il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Chaque week-end depuis un mois, c'est des vidéos de bagarres diffusées sur les réseaux sociaux, des violences commises à la Foire du Trône, la grande fête foraine parisienne. La conséquence, c'est que les parents sont inquiets, que les forains redoutent une baisse de la fréquentation. On sera avec René Ayoun, qui est le représentant des forains, témoin dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et on va partir à la Foire du Trône à 7h11 pour retrouver René Ayoun. Bonjour. Vous êtes forain. Vous êtes forain et puis vous êtes président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France. Tous les forains de France, vous les représentez. Merci d'être avec nous ce matin parce que, eh bien, depuis un mois, on voit partout des bagarres filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. C'est des très, très violentes altercations qui ont lieu à la Foire du Trône, qui est donc l'une des foires foraine mythique de Paris, qui devrait être un lieu de bonheur, de joie, un lieu même familial, avec des familles, des enfants, des jeunes. Et ben c'est plus du tout le cas en ce moment. Rien que le week-end dernier, 5 bagarres, des bagarres franchement vives, 4 personnes interpellées. Est-ce que cette hausse des violences, elle est récente? Comment vous avez vu les choses monter?
Alors, bonjour à Pauline de Malherbe, bonjour à tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des bandes de jeunes qui veulent marquer un territoire, veulent, vous savez, suite aux émeutes qu'il y a eu, ils ont pensé que il faut se réunir pour foutre le bazar ou alors perturber des animations. On voit se monter ça depuis quelque temps, donc depuis un an, tout simplement. Il y avait toujours des petits accrochages, mais malheureusement, là, ça prend de l'ampleur. Et en plus, on ne sait pas comment faire pour la bonne et simple raison, c'est que la fête foraine est un lieu populaire où les gens peuvent rentrer gratuitement. À l'entrée, à la foire du trône, il y a des vigiles qui surveillent. Mais ces jeunes-là ont pris l'habitude de rentrer par petits groupes et se réunir et après faire leurs mauvaises actions.
C'est quoi leurs mauvaises actions concrètement? C'est contre qui? C'est contre des publics.
Ils pensent avoir un lieu de territoire à marquer, donc ils viennent essayer de racketter, essayer de vendre ce qu'ils ont à vendre, ou de venir régler des comptes avec d'autres bandes. Et malheureusement, nous, en tant que professionnels de la fête, nous on est là pour amuser les gens, on n'est pas là pour faire la police. La police essaye de faire le maximum aussi, mais ces faits d'incivilité prennent de l'ampleur. On le voit de toute façon dans tous les jours dans la vie sociale.
Vous estimez au fond que ce qui se passe à la foire du trône, c'est ce qui se passe dans le reste de la société, quoi.
Exactement. Et on voit prendre de l'ampleur puisque la foire du trône est une foire qui rassemble beaucoup de public. Donc dès l'instant que vous avez une masse de public qui est rassemblée, il y a toujours des petits groupuscules qui viennent essayer de faire leur business ou alors d'une manière perturbée, régler des comptes. On ne l'admet pas parce que de toute façon, nous on est là pour déjà amuser le public à travers ça, faire tourner nos entreprises. Il y a des entreprises derrière. À l'heure actuelle, vous avez différentes foires en France. Vous avez Nancy, vous avez Caen, vous avez Lille. Actuellement, moi, je suis à Montreux, en Seine-et-Marne, où tout se passe bien. Et quand on voit sur les réseaux sociaux des jeunes qui déploient leurs états de fait, ça donne des idées aux autres pour venir, nous aussi, on veut qu'on parle de nous. Vous voyez, il y a un effet de société
On va préciser évidemment aussi, René Ayoun, que tout ça se passe ensuite sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ça se passe dans le monde réel, dans les allées de la foire du trône, mais ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, puisque ces jeunes dont vous parlez se filment pendant les bagarres, des moments parfois extrêmement violents, et les postent ensuite comme un trophée sur les réseaux sociaux. Vous dites, on s'en remet à la police, ils tentent de limiter les choses, dites-vous. On voit aussi que les forains, un peu à bout de nerfs, finissent aussi par essayer d'attraper eux-mêmes ceux qui commettent ces méfaits.
Vous savez, quand il y a des débordements, déjà, la première des choses, on protège le public, déjà d'une part. D'autre part, on a aussi nos activités, notre matériel. Quand il y a des dégradations, les assurances répondent pas. Puis on l'a déjà vu pendant les émeutes, comment ça s'est passé pour des commerçants, notamment à Montargis, quand les magasins ont été détruits, les assurances payent pas. Nous, c'est des outils de travail, c'est des vies derrière, c'est des familles, c'est des entreprises. Aujourd'hui, il y a deux choses à faire. Ou on se résigne, ou on se révolte. Malheureusement, on est en train de prendre un système qui n'est pas bon. Nous ne sommes pas là pour faire la police. Nous sommes simplement là pour protéger le public et protéger nos activités, protéger nos familles. Donc quand vous avez des bandes de jeunes qui arrivent avec des cutters ou qui arrivent avec des bacs de baseball et tout ça, on ne sait pas d'où c'est qu'ils les sortent, puisque à l'entrée, il y a quand même des vigiles. La fête foraine n'est pas une insécurité. C'est pas la fête foraine qui est une insécurité. En ce moment, je pense qu'il y a un très grave problème en France. C'est la France qui est devenue insécuritaire dans tous les domaines.
Donc soit on se résigne, soit on se révolte. On sent bien que vous êtes plutôt à deux doigts de la révolte. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, vous continuez à dire la fête foraine, ça doit rester un lieu de fête. Vous continuez à dire, venez à la fête foraine. D'ailleurs, ça se termine ce week-end, c'est le dernier week-end.
Tout à fait. Cette année, la particularité, c'est que la foire du trône a été donc écourtée par rapport aux Jeux Olympiques, mais nous avons aussi d'autres problèmes qui sont en train de se profiler dans la France par des annulations d'activités festives. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver un moment pour en reparler. et les petits villages vont être pénalisés cette
année
parce que non.
Rendez-vous est pris aussi pour parler de cette question dans les territoires effectivement où vos fêtes, ne serait-ce que la foire du trône qui normalement dure 6 semaines, elle a été avancée et elle ne dure que 4 semaines à cause des Jeux Olympiques. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin et bon courage donc René Ayoun, patron des Forains de France. Il est 7h16 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Attention, danger, l'état des routes de France est préoccupant. Voilà ce qui ressort des chiffres de l'Observatoire National de la Route. Un tiers des infrastructures routières mériterait des travaux. C'est notamment la conséquence du réchauffement climatique. C'est ce que nous dira François Durovray, il est président du département de l'Essonne, et Alexandra Legendre de la Ligue de Défense des Conducteurs. Avec vos témoignages, vous n'hésitez pas au 32-16. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Victor Joannin et Arnaud Demanche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Tous les matins, les coulisses de l'actu avec ce matin Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. Bonjour Cyprien.
Bonjour Apolline.
Rima Hassan, la nouvelle recrue franco-palestinienne de la France insoumise, prend beaucoup la lumière. Elle sera aux côtés de Jean-Luc Mélenchon ce soir au point d'agacer de plus en plus de monde.
Oui, Rima Hassan n'est que 7e sur la liste insoumise pour les européennes et pourtant, c'est elle qui est en haut de l'affiche. La juriste franco-palestinienne se paye le luxe de partager non pas un, mais deux meetings de suite aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir à Roubaix et demain, si ce n'est pas annulé, à Lille. Le parcours de la nouvelle recrue est un argument de campagne. Née dans un camp de réfugiés, arrivée en France à 9 ans, désormais très influente, notamment sur Instagram, capable de jouer la confrontation. Bref, l'incarnation de la ligne 100% Palestine de LFI. Alors c'est simple, Rima Hassan a effacé la tête de liste Manon Aubry, raillant haut dirigeant socialiste. Officiellement, aucune concurrence entre les deux. Pourtant, selon nos informations, Manon Aubry n'était pas en première ligne lors des négociations pour l'intégrer sur la liste. Jean-Luc Mélenchon et ses proches s'en sont chargés eux-mêmes. Un bon coup, avec l'espoir de séduire grâce à elle les jeunes abstentionnistes dans les quartiers. Mais cette stratégie crispe certains. Je regarde la campagne et je me dis, quoi, encore elle ? Souffle un député LFI. Ça nous oblige à passer plus de temps à la défendre qu'à parler de Gaza, poursuit-il encore. Ses critiques, Rima Hassan dit les accepter. Elle qui découvre pourtant les affres de la politique. Et d'ailleurs, Manon Aubry va retrouver un peu de lumière en fin de campagne. C'est bien elle qui participera aux principaux débats contre les autres candidats.
Les indiscrets signés ce matin, Cyprien Pézeril du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 avec le retour d'Amélie Rosic.
Bonjour.
Bonjour Amélie. Victor Joannin qui est là pour l'économie. Bonjour. Bonjour Victor et Arnaud Demanche.
Bonjour.
Bonjour Arnaud. Amélie, on va commencer avec vous ce matin. Vous nous parlez des dangers du chemsex.
Oui, le chemsex, contraction des mots chemical, produit chimique en anglais, et sexe. Le principe, c'est de consommer de la drogue pour amplifier les sensations et prolonger les rapports sexuels. Selon les études, les usagers sont à 80 voire 90% des hommes avec d'autres hommes. Et d'après le rapport Chemsex de 2022, commandé par le ministère de la Santé, cette pratique dangereuse concernerait entre 100 et 200 000 personnes en France. C'est un élu qui nous a interpellé sur le sujet en nous écrivant. Yann Botrel, adjoint à la mairie de Charly, c'est près de Lyon. Écoutez.
Dès qu'on a quand même des problématiques de santé publique qui vont toucher plutôt une minorité de la population, on est un peu lent au démarrage. Pour autant, on sait déjà que, par exemple, en 2017, moi, sur ma ville de Lyon, une association a mis en avant une vingtaine de cas suspects de décès. L'Agence régionale de santé a enquêté, on a reconnu 9.
Une pratique qui peut être donc mortelle, hein. L'élu a écrit au ministère de la Santé et la réponse ne l'a absolument pas convaincu. Écoutez, le contexte privé des événements chemsex empêche une campagne traditionnelle de prévention. Bon, c'est pour ça qu'il a fait appel à nous.
Amélie, les risques liés à cette pratique sont réels et sont graves.
Maladies sexuellement transmissibles, altération du consentement, troubles psychiques, addiction et le nombre d'usagers de chemsex a augmenté depuis le Covid et les confinements notamment. Le phénomène est tel qu'un groupe de travail a été créé récemment à l'INSERM, l'Institut National de la Santé. Notre reporter Marie Lynn Hotman a pu rencontrer un repenti du chemsex, il raconte.
J'ai pris un calendrier, je faisais une croix à chaque fois que je prenais des produits et quand je vois qu'à la fin du mois, le calendrier était rouge. On a du mal après avoir la lumière où on se dit comment je vais retrouver une vie normale, une sexualité normale, des contacts sociaux normaux.
Amélie, il n'existe pas de dispositif de prévention.
C'est ce que nous avons demandé aux applis de rencontre, notamment, parce que c'est là que ça se passe beaucoup en amont. Seul Tinder nous a répondu. L'appli travaille avec des associations en ce moment même sur la meilleure manière d'éduquer, mais aussi d'orienter les jeunes vers des ressources concrètes, nous dit-il. Nous avons également sollicité évidemment le ministère de la Santé. Les pouvoirs publics nous disent soutenir les initiatives portées par les associations, mais pas de grande campagne de prévention prévue, vous le savez. On ne lâche rien, évidemment, on va continuer d'insister.
Et il y en a certains qui s'en sortent, parce que je trouve ça quand même fort. Absolument. Aussi d'entendre le témoignage que Marilyn a recueilli. Vous connaissez le chemin, RMC avec vous, @rmc.fr. 7h23, l'économie avec vous, Victor. On parle ce matin de la fraude aux pensions de retraite. La Caisse nationale d'assurance vieillesse vient de rendre public ses propres chiffres pour la première fois et ils sont assez surprenants, Victor.
Oui, la CNAV qui a mis le paquet pour chiffrer cette fraude avec le recrutement de 12 salariés qui ont épluché 3000 dossiers tirés au sort. Sur ces 3000 dossiers, il y en avait 200 de suspects et après enquête, il s'est avéré que seuls 16 étaient fraudeurs, soit un taux de fraude de 0,5%. Alors ça représente 70 millions de manque à gagner, c'est pas négligeable, mais c'est presque trois fois moins que le chiffre de 200 millions qu'on entendait jusque-là, et c'est une goutte d'eau comparée aux 340 milliards d'euros de pensions versées chaque année.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse met les bouchées doubles pour lutter contre les fraudes des retraités qui résident à l'étranger.
Oui, ils sont un peu plus d'un million, surtout en Algérie, au Portugal et en Espagne. 4 milliards d'euros de pensions leur sont versées chaque année. Les contrôles sont plus compliqués parce que la France n'est pas forcément prévenue quand un pensionné décède, donc ses proches peuvent continuer à percevoir la pension. Ce sera bientôt en grande partie résolu. De plus en plus de pays envoient automatiquement l'information du décès à la France. Et puis pour ceux qui n'ont pas un état civil suffisamment fiable ou ceux avec lesquels les relations diplomatiques sont un peu plus compliquées, je pense notamment à l'Algérie, un système innovant va être mis en place d'ici quelques semaines. Les retraités pourront prouver qu'ils sont encore en vie grâce à leur smartphone en se filmant.
Je suis là, je suis encore vivant.
Et la CNAV a testé, visiblement ça marche.
Les retraités, c'est pas forcément des stories qui ont été enregistrées il y a 3 ans, par
non,
exemple,
c'est
et qu'on sortirait.
Non,
et on précise évidemment qu'il est absolument pas, ça n'est pas une fraude de percevoir sa pension à l'étranger. On a parfaitement le droit, en tant que retraité, de partir à l'étranger et de la percevoir. Ce qui n'est pas légal, c'est si on est décédé, de continuer à la percevoir, bien sûr. 7h25. Vous l'avez entendu, c'est l'heure. Et c'est l'heure de gagner.
Et d'appeler
le gagnant. Et on est avec, je ne sais pas avec qui, puisque justement, c'est tiré au sort. Bonjour. Oh, attendez, ça sonne.
Allez,
ça sonne. Charles, ça sonne.
Ça vibre.
Allô.
Bonjour, Nassima.
Bonjour, madame de
la Grave. Oui. Je vois que vous étiez à côté du téléphone. Et bien, vous avez gagné. C'est vous. C'est vous qui avez gagné. Vous habitez où, Nassima?
Alors, j'habite en Charente, à Confolens, exactement.
D'accord. Et vous faites quoi dans la vie?
Je suis orthophoniste.
Orthophoniste à Confolens. Nassima, vous avez donc gagné. Attention, vous connaissez le principe. Vous avez gagné quoi qu'il arrive. On ne vous les retirera pas. Là, ça y est, c'est bon, c'est pour vous. Mais vous pouvez choisir maintenant. Donc, vous prenez soit deux places pour la finale femme du volleyball. Ce sera le 11 août à l'Arena Sud de Paris. Soit deux places pour assister aux épreuves mixtes par équipe de judo avec Teddy Riner et Clarisse Abgenienou le 3 août au Champ de Mars Arena de Paris. Qu'est-ce qu'on choisit alors?
Alors on choisit le judo parce que mon fils a
démarré le judo. Les icônes.
Attendez, je vous ai pas entendu. Qu'est-ce que vous disiez, Nassima? Votre fils, il joue au judo, c'est ça? Non.
15 jours.
Ah bah c'est sympa. Et ben franchement, vous allez être très 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 heureux. On vous félicite et ce sera donc les deux places pour le judo. Bonne journée, Nassima.
Au revoir, merci encore.
Et bravo.
Et bravo, félicitations. Vous le savez, le principe, c'est aussi que vous allez pouvoir gagner à nouveau dans une heure.
Et maintenant, c'est moi.
Et maintenant, c'est Arnaud qui est avec nous. Arnaud, vous allez faire de l'humour sur mon invité.
Oui.
À 8h30, c'est Jordan Bardella, tête de liste RN pour les Européennes.
Ah, il est arrivé. On dirait qu'il est déjà en régie, il a choisi sa petite musique. Bon, je veux pas vous spoiler, mais effectivement, ça a l'air plié pour les Européennes. Hein. Il est tellement haut dans les sondages. En ce moment, on dirait qu'il prend 1% par jour. Sa liste, elle va gagner avec 137% des voix. On va rien comprendre. Poutine va être jaloux. L'élève aura dépassé le maître. Alors, Jordan Bardella, c'est l'idole du RN. Il plaît à la fois aux vieux nostalgiques du FN qui écoutaient des chants allemands et aux jeunes du RN qui mettent des baskets branchées, d'où son surnom, Air Jordan. Celle-là, elle est pour Charles.
Oui.
En tout cas, belle semaine sur RMC. Bravo, hein. Lundi, le président de la République, aujourd'hui son successeur en 2032. Et sachez, chers auditeurs, que la semaine ne s'arrête pas là, puisque demain, c'est une exclusivité RMC. Apolline recevra pour une interview historique Xavier Dupont de Ligonnès. L'événement. Alors, depuis le début de la campagne, Jordan Bardella évite soigneusement les débats organisés avec les autres têtes de liste. Apo, vous voulez pas le feinter ? À 8h30, vous lui dites...
J'y vais pas.
Jordan Bardella.
Non, finalement, je... Hein.
Voilà, j'ai une question pour vous, mais je suis pas seul.
Et oui, Jordan, je suis Jean-Pierre Foucault. Je reviens sur AMC en duo avec Apolline pour vous préparer une sacrée matinée avec une surprise. Valérie Ayé, François-Xavier Bellamy, Raphaël Bouchard, Manon Aubry, Marie Toussaint. Ils sont tous là pour débattre avec vous ce matin. D'abord l'interview, ensuite le débat. Quelle surprise. Et hop, il est feinté, hop, il est coincé,
c'est
il
ne peut pas partir. Une excellente
Rendez-vous
idée. Mais fallait pas le dire. Fallait que ce soit la surprise. Vous l'avez bien compris, Jordan Bardella, rendez-vous à 8h30. Mais on vous retrouve d'ici là à 7h20. A tout de suite pour la météo de journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne seront pas sûrs d'être payés. Les fournisseurs d'Ascométal bloquent depuis 24 heures l'usine sidérurgique de Fos-sur-Mer, montant de la facture 10 millions d'euros. Les nappes phréatiques françaises se rechargent enfin grâce aux fortes pluies du mois de mars. Et puis le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire 4-1 face au Barça hier soir. Les supporters ont désormais les yeux rivés sur le prochain adversaire. Ce sera le Borussia Dortmund dans deux semaines.
L'usine Ascométal de Fos-sur-Mer est toujours bloquée ce matin.
Par une quinzaine de camions de fournisseurs du groupe sidérurgique, des fournisseurs qui viennent de passer la nuit sur ce site des Bouches-du-Rhône, car depuis le placement de l'entreprise en redressement judiciaire, ils ne sont plus payés. L'opération va donc se poursuivre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, Johanna Chabas.
10 millions d'euros, c'est la somme qu'Ascométal doit à ses fournisseurs, selon Julien Muchinessi. Il est le porte-parole de la quarantaine de PME qui ne sont plus payées depuis le mois dernier.
On se sent trahi. On n'est pas des groupes internationaux, nous sommes des PME, des entreprises familiales indépendantes. Et une créance comme celle-là mettrait la survie de nos structures en péril. Mettre les salariés sur le carreau, ça me convient pas.
En tout, 1000 emplois seraient directement ou indirectement menacés par le redressement judiciaire d'Ascométal. En 10 ans, c'est la troisième fois que l'entreprise subit cette procédure. Et les salariés du site soutiennent les fournisseurs, selon Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône.
La réaction des fournisseurs, elle est tout à fait compréhensible. On assiste là à un dépeçage du groupe Ascométal. Depuis des années, à chaque fois, on perd des outils de production, et c'est une spirale qu'il faut à tout prix arrêter.
De son côté, Ascométal explique que c'est la procédure de redressement judiciaire qui l'empêche de payer ses dettes pour le moment, mais elle veut rétablir le dialogue. Les administrateurs judiciaires en charge du redressement de l'entreprise vont rencontrer les fournisseurs cet après-midi.
On vous en parlait hier sur RMC, l'énorme salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares, a été validé à 70% des voix par les actionnaires du groupe automobile. 36 millions d'euros pour l'année 2023, ça représente 100 000 euros par jour. Alors que le gouvernement veut mettre fin à l'emploi à vie pour les fonctionnaires, un député Renaissance remet cet après-midi un rapport sur leurs conditions de logement, avec notamment une proposition réservée de nouveaux logements sociaux aux agents du service public. Objectif rapprocher les policiers, les infirmiers ou encore les soignants de leur lieu de travail, car certains sont obligés de s'éloigner à cause des loyers trop élevés. Et ça tombe bien, puisqu'un projet de loi pour faciliter l'accès au logement est attendu le mois prochain, mais les syndicats Delphine Schiltz ont quelques réserves.
Réserver de nouveaux logements aux fonctionnaires, une piste intéressante selon Christian Grolier, secrétaire général de Force Ouvrière Fonction Publique.
Les loyers ont augmenté énormément dans les grandes villes. Vu le salaire des fonctionnaires aujourd'hui, évidemment tout le monde est obligé de s'éloigner pour pouvoir avoir un logement à peu près décent. Les trajets se sont bien sûr accentués. Faire en sorte que les fonctionnaires habitent plus près de leur lieu de travail, ce sera une bonne nouvelle.
Mais pour le syndicaliste privilégié, les travailleurs dits de première ligne, comme les policiers ou les infirmiers, ne va pas assez loin.
Il faut faire en sorte que tous les agents, quelle que soit leur mission, tous ceux qui ont besoin aujourd'hui d'être logés, parce qu'on a des fonctionnaires qui vivent dans leur voiture, puissent bénéficier de logements sociaux.
Ces logements pourraient aussi servir de résidence pour des agents publics nouvellement mutés, le temps qu'ils trouvent leur propre logement. De quoi attirer de nouveaux candidats, estime Luc Faré du syndicat UNSA.
Si l'employeur public facilite l'accès au logement, cela peut donner des possibilités pour des personnes de se dire oui, pourquoi pas rentrer dans la fonction publique et en plus pouvoir bénéficier d'un logement.
En cas de changement de profession, l'agent devrait rendre le logement pour un successeur.
7h35 sur RMC. Et enfin, une bonne nouvelle, la situation de nos nappes phréatiques s'améliore. Merci aux importantes pluies du mois de mars. C'est ce que nous apprend le dernier bulletin du Bureau de recherche géologique et minière. Seul point noir persistant dans le Roussillon qui va encore devoir faire face à des restrictions cet été. Mais dans beaucoup de départements, c'est un ouf de soulagement, notamment en Isère, Vincent Chevalier.
Dans les champs de Jean-François, pas encore de maïs. Il sera planté d'ici 2 semaines et les pluies des derniers mois l'ont rassuré.
On a eu plus d'1 mètre d'eau tombée depuis le mois d'octobre sur notre région, donc ça a permis en partie de vraiment recharger les nappes.
L'agriculteur espère désormais une saison limitée en restrictions, contrairement à l'année dernière.
C'est dans des périodes comme cela, quand il y a beaucoup d'eau, qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on en garde un maximum, donc on trouve des solutions.
Parmi ces solutions, développer d'autres systèmes d'irrigation, comme le goutte-à-goutte enterré.
L'objectif, ça serait d'économiser 20%. C'est ce qu'on a fait l'an dernier.
Effectivement, la situation est plutôt rassurante. De tels niveaux n'avaient pas été atteints depuis une dizaine d'années. Julien Joanneau, chargé de la sécurisation de la ressource en eau pour l'agglomération de Vienne-Condrieux.
C'est rassurant dans ce sens-là de voir que la nappe est capable de se recharger et que là, en tout cas, au moins pour cette année, on sait qu'on ne devrait pas avoir de soucis d'alimentation en eau potable de notre côté.
Mais hors de question de se laisser aller, l'appel à la sobriété sera renouvelé cet été.
Il suffit aussi de 2 années sèches pour que les niveaux baissent très vite. Plus tôt on prend les bonnes habitudes, pour la suite, mieux ce sera.
L'agglomération poursuit également son travail pour repérer et colmater les fuites sur les réseaux d'eau.
7h36, le PSG aussi aura eu droit à sa remontada. Battu 3-2 à domicile au match aller, Paris a réussi à s'imposer 4-1 hier soir sur la pelouse du FC Barcelone. Les trois buteurs Dembélé, Vitinha et Mbappé, auteurs d'un doublé qui offre donc à leur club un ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions, pour le plus grand bonheur des supporters avec qui Clément Brossard a passé la soirée pour RMC.
Une explosion de joie et des voix remplies d'émotion.
C'est la remontada du Paris Saint-Germain, les gars. Le Barça, ils n'étaient pas prêts. Ils ont compris qui était le PSG. C'est nous, les gars. On est là, tout le monde est là. C'est extraordinaire, c'est pour l'histoire.
Hier soir, les supporters parisiens ont pu en partie remercier Kylian Mbappé, auteur d'un doublé.
On est prêt à le voir partir. Il veut tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Il veut partir comme un roi. C'est une des plus grandes légendes du club. Et aujourd'hui, il est en train de faire des choses que peu de joueurs dans notre club ont fait. On peut que le remercier pour ça.
Désormais, place à la demi-finale face aux Allemands de Dortmund.
Je pense qu'on a un tirage qui est plutôt favorable. Après, il faudra rester concentré et on espère aller au bout. Comme toujours, je pense que notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes.
Et si cette année était la bonne, l'heure enfin de remporter la Ligue des Champions.
On n'est pas très confiants d'habitude, mais cette année, Luis Enrique va changer le truc.
Avec une équipe remaniée comme Enrique l'a fait, ce n'est pas du tout la même équipe. C'est une équipe avec une autre mentalité et face à Dortmund, et même en finale, c'est possible.
C'est en tout cas le rêve de tout supporter parisien, décrocher une première étoile.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce sera face au Borussia Dortmund dans 2 semaines.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Et tiens, si vous n'avez pas réussi à avoir de place pour les Jeux Olympiques, sachez que la billetterie rouvre ce matin à 10h avec à la clé 250 000 billets pour tous les sports et pour la cérémonie d'ouverture. Premier arrivé, premier servi. Ce sera évidemment aussi là une journée spéciale sur RMC avec plusieurs invités et une émission spéciale du Super Moscato Show en direct du Grand Palais à partir de 15h.
Et puis les places, elles sont aussi à gagner sur RMC 1. Vous le savez, vous n'hésitez pas à vous envoyer Paris 2024 au 7-32-16. Il y aura à nouveau un gagnant, il y en a un toutes les heures et le prochain ce sera à 8h24 évidemment pour Paris 2024. Bonne chance à tous, le quintet 13h55 sur l'hippodrome de Reims.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 15 Edic Gemma, l'outsider, c'est le numéro 3 Harmonie de Brévol, la course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise d'Ange en 7h39.
RMC 6h39h.
Apolline Matin.
Nid-Poule, chaussée gondolée ou encore bas-côté détérioré, nos routes de France sont en très très mauvais état. Un tiers de ces routes mériteraient des travaux, en cause notamment les écarts de température, le changement climatique, des investissements aussi à la baisse. C'est ce que nous dirons dans un instant François Durovray, lui, il est président du Conseil Général de l'Essonne. Et puis Alexandra Legendre, la porte-parole de la Ligue de Défense des Conducteurs. Avec vous, vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour témoigner de l'état de ces routes. On vous attend au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, on va parler de l'état de nos routes, mais on voudrait faire un petit détour par Barcelone pour retrouver Nicolas Poincaré. Oui. Salut Nico.
Bonjour Apolline.
Ouais, parce que on peut se dire les choses. Vous êtes parti en vacances. Vous nous avez dit juste avant de partir, j'y vais avec mon fils. Le cadeau, ça sera la soirée du match. Votre fils, il est ultra fan du PSG, comme vous, évidemment. Bon, quelle soirée extraordinaire de l'avoir vécu là-bas, dans le stade, au milieu des Catalans.
Ah ben, on s'est forgé des souvenirs, Persis, exceptionnels, effectivement, en vivant ce match dans ce stade olympique magnifique où j'étais pas retourné depuis 32 ans. J'avais fait la cérémonie d'ouverture des Jeux de Barcelone en 92 dans ce même stade. Alors, le problème, c'est qu'on était au milieu des supporters barcelonais, hein, puisqu'on avait acheté nos places sur le site du Barça. Et il fallait pas trop les provoquer, il fallait pas trop montrer notre joie. Hein. Ça hurlait beaucoup à côté de nous. Pouta PCR, un peu, Pouta PCR, voilà.
Oui, on a compris. On a traduit.
Voilà, Pouta Dembélé, énormément aussi, hein, parce que c'est un ancien joueur du club qui avait, à qui on reprochait d'avoir trop célébré son but au match aller. Donc voilà, quatre fois, il a fallu qu'on dissimule notre plaisir, qu'on reste absolument silencieux, parce que vraiment, les supporters autour de nous n'auraient pas apprécié, je pense, de nous voir hurler de bonheur. Donc c'est un exercice, hein, de voir comme ça un match en retenant ses émotions pendant une heure et demie. Mais c'était magnifique, c'était vraiment magnifique.
Magnifique d'avoir vécu ça, et j'imagine qu'en sortant du stade, vous avez retrouvé quand même quelques Français avec qui vous pouviez oser exprimer un peu plus la joie.
Non, pas trop. Il y avait 60 000 Barcelonais qui partaient.
Oui, ça prend la place.
Et encore une fois, il ne fallait pas les provoquer. Donc on est rentrés, on a marché avec eux, parce que c'est au milieu d'une colline assez loin du centre-ville. Il faut marcher pas mal en sortant du stade avant de pouvoir retrouver les transports en commun. Donc on a encore une fois été très, très sages.
Et jusqu'au moment où on imagine le moment au coin d'une rue où tout d'un coup on se permet de hurler.
De se taper dans les mains.
Exactement. Bon, Nico, profitez bien de vos vacances. Merci d'avoir mis le réveil ce matin pour partager avec nous cette expérience extraordinaire. On vous retrouve lundi prochain. Salut.
À lundi.
Salut Nico. Il est 7h44.
L'invité du jour.
Et c'est deux invités ce matin. Alexandra Legendre, bonjour. Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Et avec nous au téléphone, on est avec François Durovray. Vous dirigez le conseil départemental de l'Essonne. Et vous êtes aussi président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France, en charge notamment de la question des routes. On va commencer par le constat. Un tiers des routes de France, qu'elles soient nationales ou départementales, auraient besoin d'être rénovées. C'est ce que nous apprend l'Observatoire national de la route. Et en réalité, c'est des nids de poules, ce sont des grandes fissures, ce sont des chaussées qui sont totalement déformées sur le bas-côté. D'abord, est-ce que ça vous surprend, Alexandra Legendre ?
Non, ça ne nous surprend pas du tout, parce qu'on travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. Et nous, on a 1 million de sympathisants, et tous les jours, on a des coups de fil, pas uniquement sur ce sujet-là, mais ce sujet ressurgit de plus en plus ces dernières années.
François Durovray, vous suivez la situation, vous êtes conscient que ça va pas, et pourtant on a l'impression que il y a pas de sous, quoi.
Bah écoutez, d'abord, la France a un réseau routier remarquable d'un million de kilomètres et qui était reconnu pour sa qualité. Nous étions sur la première place.
Ouais, pendant longtemps, on était très fiers.
En quelques années, nous sommes descendus à la 18e place, tout simplement parce que l'État aujourd'hui ne met plus les moyens sur ses propres routes et à asphyxier les collectivités locales, les communes et les départements, qui sont responsables de la majeure partie du réseau routier, ce qui fait que, concrètement, l'entretien courant est fait de façon moins régulière et que nous voyons une dégradation de la chaussée, sans risque, évidemment, sans danger pour l'automobiliste, mais une perte de la valeur du patrimoine.
Sans danger, c'est vite dit, hein, Alexandra Legendre.
Oui, il y a des casses mécaniques, de toute manière, malgré tout. Il y a des très gros nids de poules, notamment. Puis vous avez aussi des défauts de marquage au sol. Vous avez d'autres défauts de la route qui font que, évidemment, pour les cyclistes ou les motards ou les scooters, c'est très dangereux. Mais pour les voitures, ça implique aussi des casses.
Et François Durovray, est-ce que les sous ont réduit ? C'est-à-dire, quand vous dites il y a moins d'investissements, c'est parce qu'il y a d'autres priorités ? C'est parce que l'État ne vous donne pas assez de sous ? Ça ne va faire qu'empirer, hein, on imagine, puisque évidemment le ministère de l'économie nous dit qu'il va encore falloir trouver des sous, 20 milliards cette année d'économies à faire. Donc,
D'abord, sur le million de kilomètres de route, il y en a 20 000 qui appartiennent à l'État, 700 000 aux communes et 360 000 aux départements. Okay. Sur les routes départementales, globalement, l'État est tout à fait correct et nous avons même augmenté les investissements au cours de ces dernières années.
Ok, c'est bien de le dire.
Simplement, la chute des recettes immobilières va nous contraindre sans doute dans les années à venir à réduire ces montants. C'est la raison pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme et nous considérons que nous devons investir sur les routes dans les années qui viennent, à la fois pour maintenir leur état, mais aussi pour réussir la transition écologique, parce que sur les routes, on doit mettre plus de monde avec moins de voitures. Et c'est un enjeu formidable parce que la route aujourd'hui est le premier émetteur de CO2 en France qu'il faut absolument réduire. Et nous sommes convaincus qu'il faut investir sur la route.
Avec une question aussi, qui est effectivement qu'il y a moins de sous, ça c'est une chose, mais c'est aussi qu'elles se dégradent plus vite, les routes, à cause des terribles écarts de température d'abord, et puis des alternances entre périodes de sécheresse extrême et soudain beaucoup trop de pluie, comme ça a été le cas récemment. Est-ce que notre bitume est adapté, Alexandra Legendre ?
Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la sécheresse, il y a aussi la disparition des DDE en 2010, je vous rappelle.
Les DDE, c'est les directions départementales de l'équipement.
Voilà, et donc on avait affaire à des experts qui restaient longtemps dans les départements, qui connaissaient extrêmement bien leur réseau, et on a perdu cette compétence et cette expertise des réseaux.
Donc, ça n'existe plus les DDE ?
Non, ça a été démantelé en 2010. Donc aujourd'hui, vous avez des directions interdépartementales des routes, et puis vous avez effectivement des gestionnaires comme les présidents de département, les maires, enfin tous les gens qui sont gestionnaires de voirie. Donc ça, c'est un vrai problème de compétences aussi qui a ressurgi. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que y a des travaux qui n'ont pas forcément été bien faits. On estime que la moitié des travaux réalisés sur les routes ne correspondent pas finalement au cahier des charges initiales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après des travaux, quand vous réparez des routes, il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de contrôle des travaux.
On vérifie pas que ça a bien été fait, quoi.
Jamais. On le fait lorsqu'on construit une nouvelle route. On ne le fait jamais. Hors autoroute, bien sûr, parce que vous avez une autoroute concédée. Et là, il y a des contrôles, je peux vous dire.
Moi, je trouve ça sidérant. C'est-à-dire que, honnêtement, je trouve ça toujours assez triste. Je ne sais pas comment le dire autrement. De voir à quel point les choses se dégradent aussi pour des raisons. Tout d'un coup, on a dû faire des économies de bout de chandelle, de DDE qui deviennent des intercommunalités. Enfin, c'est quand même assez navrant, François Durovray, non ?
Alors sur l'évolution effectivement de l'organisation de l'État, je partage le constat, et d'ailleurs dans la plupart des départements aujourd'hui, ce sont les conseils départementaux qui assurent une ingénierie pour le compte des communes et qui donc remplacent les DDE. Je peux vous assurer que les travaux que nous réalisons évidemment sont de qualité et sont contrôlés au niveau des départements. Nous avons d'ailleurs des organismes qui veillent à cela, mais je partage encore une fois le constat et surtout l'urgence de trouver des solutions sur la route. Aujourd'hui, les automobilistes financent la route très largement au travers des taxes qu'il y a sur l'essence, sur les concessionnaires d'autoroutes. Donc l'argent existe, simplement il faut qu'il soit réparti différemment, sans doute, entre les concessionnaires autoroutiers d'un côté, les gestionnaires de voirie que sont les départements et les communes de l'autre, pour que nous remontions le niveau et la performance, la qualité des réseaux. On a beaucoup parlé des routes et des bitumes, mais il y a aussi l'enjeu des ouvrages d'art, des ponts, qui pour l'essentiel ont été construits après la guerre dans notre pays et qui arrivent en fin de vie, sur lesquels il va falloir investir de façon conséquente.
Merci beaucoup François Durovray. Je rappelle que vous dirigez le conseil départemental de l'Essonne, et merci à vous Alexandra Legendre, vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, expliquez-nous, Laurent Neumann.
Oui, l'amertume des Ukrainiens au 784e jour de guerre.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC avec vous, Charles. Charles, il y a une série qui va être consacrée à Brigitte Macron.
Oui, Brigitte, une femme libre. C'est le titre de cette série développée par Gaumont. On en est encore au stade de l'écriture du scénario. 6 épisodes de 45 minutes chacun qui, je cite, retraceront la trajectoire romanesque de Brigitte Macron. La série débutera par la rencontre entre Emmanuel Macron et sa professeure de français lors d'un atelier théâtre en 1992 jusqu'à la période actuelle. Mais il y aura aussi des flashbacks dans les années 70 et 80, assurent les scénaristes. Alors côté casting, on ne sait pas qui incarnera le couple...
Peut-être,
le casting est en cours. On ne sait pas non plus sur quelle plateforme la série sera diffusée. Aucun commentaire du côté de l'Élysée qui assure ne pas être associé au projet. En revanche, on pourrait bientôt voir Brigitte Macron sur Netflix, puisque la première dame a été aperçue sur le tournage d'Emily in Paris. Selon le journal britannique le Daily Mail, elle pourrait faire une apparition, camper son propre rôle dans la saison 4 à venir.
Moi j'adore Emily in Paris, j'attends la saison 4.
Et avec peut-être Brigitte Macron sur l'écran.
Bonsoir, enchantée, your hands on my face, embrasse-moi mon soleil, say you die for me, babe.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, expliquez-nous.
Expliquez-nous.
Laurent Neumann, expliquez-nous, depuis les tirs de missiles iraniens sur Israël et l'implication directe des Occidentaux pour défendre l'État hébreu, les Ukrainiens ont un peu peur de passer au second plan des préoccupations.
Oui, 784e jour de guerre en Ukraine, et clairement ce qui s'est passé le week-end dernier en Israël nourrit une forme d'amertume chez les Ukrainiens, voire de dépit pour ne pas dire de colère. Je vais le dire de façon plus cash, Kiev a le sentiment qu'une vie israélienne vaut plus qu'une vie ukrainienne. Au moment où Américains, Anglais, Français font corps pour protéger le ciel israélien, ils ont l'impression d'un deux poids deux mesures, au fond d'être considérés comme un partenaire de seconde classe. Et honnêtement, c'est très difficile à avaler pour un pays qui est frappé quotidiennement depuis 2 ans par l'armée russe.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs pas privé de le faire savoir hier.
Oui, parce que alors que son pays est touché depuis plusieurs semaines par des bombardements systématiques, que plusieurs centrales thermiques et hydroélectriques ont été détruites ou endommagé, Zelensky réclame de nouveaux systèmes de défense. En défendant Israël, a-t-il dit, le monde libre a démontré qu'une telle unité non seulement possible, mais efficace à 100%. La même chose est donc possible pour protéger l'Ukraine. Autrement dit, aidez-nous à nous défendre comme vous avez aidé Israël à se défendre.
Est-ce qu'il a raison ? D'abord, est-ce que les Occidentaux traînent vraiment dans la livraison d'armes et de munitions ?
Oui, alors les Ukrainiens manquent de tout, soyons clairs, de munitions, d'obus, d'avions, de boucliers antimissiles. L'Europe, en vérité, peine à produire et à fournir. Et depuis des mois, il y a une aide américaine de 60 milliards de dollars qui est bloquée au Congrès. Or, sans ces fonds, dit Zelensky, l'Ukraine perdra la guerre et ses fonds. Le président ukrainien les veut avant les élections américaines, car si Donald Trump venait à l'emporter, chacun a bien compris qu'il couperait toute aide à l'Ukraine, et c'est sans doute évidemment ce qu'espère Vladimir Poutine.
Pour Volodymyr Zelensky, c'est compliqué aussi sur le plan intérieur.
Oui, parce que l'armée ukrainienne ne manque pas simplement d'armes, elle manque aussi de bras. Elle peine à recruter de nouveaux soldats. Du coup, Kiev a promulgué hier une loi très critiquée en interne sur les nouvelles règles de mobilisation. Un texte qui accroît les sanctions pour les réfractaires, ceux qui ne veulent pas aller combattre, qui autorise les personnes condamnées avec sursis ou en liberté conditionnelle à aller se battre sur le front. Un texte qui surtout supprime la démobilisation des soldats ayant servi 36 mois, ce qui est évidemment terrible, ce qui démoralise les soldats qui se battent sur le front depuis 2 ans et ce qui met en rage leur famille. Début avril, le Parlement avait déjà abaissé l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. En échange, les soldats sur le front toucheront une prime supplémentaire de 1 800 $ et les familles des soldats tués percevront une indemnité de 380 000 $. Mais honnêtement, comment convaincre ces hommes de s'engager si l'aide insuffisante des alliés les condamne à une défaite certaine et à une mort assurée ? C'est tout le dilemme que doit résoudre Zelensky.
Merci pour ces explications, Nicolas. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo. Laurent.
C'était Laurence.
Non, Nicolas, c'était il y a un instant
Nicolas
de Barcelone.
Nicolas, c'était un instant Barcelone. Par téléphone depuis Barcelone. Il est 7h58. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.